Patrick Rognan.
Web Up sur Maximum en compagnie de Patrick Rognan avec mes invités du jour, le duo Low and Action. Un duo donc de DJ.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est également la formule que j'avais fait quand j'étais DJ. On était un duo de deux générations. Et vous produisez depuis combien de temps?
Ça va faire 7-8 ans à peu près. Qu'on a commencé. Ouais. Dans ces eaux-là. Ouais, on a commencé en fait dans les sous-sols d'un bar sur Paris qui s'appelait Lufo.
Qui a fermé depuis, malheureusement.
Et en fait, on avait un ami barman donc dans ce bar qui nous a proposé, sachant que voilà, on avait. Une grande passion pour la musique, de commencer à passer un peu de son pour animer le sous-sol les samedis soirs, et voilà, et de fil en aiguille on a développé le duo et voilà, on a avancé un peu dans notre chemin.
C'était des débuts assez modestes grâce à Cyril, qu'on remercie.
Donc, votre programmation est autour du Bad Kev, de l'Italo Disco, de la Dark Disco aussi.
Voilà, en fait, c'est vrai que quand on a commencé, c'était vraiment ce qu'on passait essentiellement. Donc, on avait vraiment une programmation, qui allait du Bad Cave jusqu'à l'Italo Disco, en passant par un peu tous les styles dark, cold wave, post punk,
wave.
Voilà. Donc, vu qu'on avait à peu près 4-5 heures de set quand on mixait dans ce bar, c'était assez grisant, parce qu'on pouvait commencer par un style, naviguer entre les différents styles et voilà, s'amuser et profiter en ayant un large éventail de musique à passer, quoi.
Et depuis combien de temps vous êtes touché par ce style musical qui nous vient, je le dis pour certains auditeurs, des années 80. Donc j'imagine que vous, ça vient pas des années 80, vous étiez né dans les années 80 ou quelque chose comme ça.
Ouais, moi j'étais déjà né, donc j'ai des petits souvenirs de Dead or Alive, Depeche Mode, voilà, je suis né au début des années 80, donc c'était un style que j'ai connu, que j'ai écouté, parce qu'à l'époque on avait quand même la chance d'avoir ce style-là qui pouvait passer à la radio, donc il y avait quand même des groupes comme Softstyle qui étaient des groupes à la marge entre l'underground et ce qui était mainstream à l'époque. Donc j'ai quelques souvenirs, mais c'est vrai que moi à l'époque, ma culture quand j'étais enfant venait plus de la musique afro-américaine, donc on écoutait beaucoup de jazz à la maison. Mais vraiment mon premier rapport à cette musique-là date fin des années 90, début des années 2000, quand j'ai commencé à sortir en fait.
D'accord.
Et moi c'est un peu différent, parce que après, moi je suis née dans les années 90. Et alors mes premiers contacts avec ce style de musique, je dirais que c'est ma mère qui m'a fait écouter The Cure et Depeche Mode quand j'étais petite, alors qu'en plus c'est pas du tout sa musique de prédilection. Moi ça a été mes premiers contacts avec ce genre de choses, et j'ai commencé à aller en concert et à sortir assez jeune, vraiment quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans, et j'ai jamais arrêté.
En tout cas, les groupes que vous m'avez cités, c'est les rares groupes qui ont eu un succès commercial et qui ont touché le grand public.
Oui, c'est sûr.
Je pense que c'est quand même souvent par là qu'on, qu'on rentre. Et moi, c'est vrai que je continue à avoir un amour totalement déraisonné pour les Depeche. Mais c'est vrai qu'après, dans ce qu'on passe, ça va être, il y en aura toujours un petit qui va pouvoir ressortir parfois.
D'accord. Et en dehors de ces grands groupes, quels sont les projets qui vous ont touché?
Dans ces dernières années, j'aurais envie de citer Spike Ellis, qu'on a vraiment découvert il y a 2-3 ans maintenant et qu'on a vu.
Ouais, qui est un groupe américain. Donc ça, c'est plus, on va dire, contemporain aujourd'hui. Donc il y a un groupe américain qui fait de l'EBM, mais assez proche de ce que pouvait faire Skinny Puppy, donc avec beaucoup de samples, assez inspiré aussi du langage un peu hip-hop. Donc il y a beaucoup d'influences dans leur musique. Donc ça, c'est vraiment, on dira, dans cette scène-là, le groupe qui nous a vraiment genre assez surpris. On les a vus plusieurs fois en concert, en festival ou de passage à Paris. Après, c'est vrai que des anciens groupes des années 80, il y a beaucoup de projets solo et de projets qui n'ont pas forcément... on va dire durer. Un exemple assez récent de reformation, on va parler de Martin Dupont, qui est un groupe de Cold Wave français, origine de Marseille, qui s'est reformé il y a 2-3 ans. Donc ça, c'est vrai que dans les premiers groupes que on peut citer, Martin Dupont, Absolute Body Control,
Vance aussi, qui sont reformés il y a pas très longtemps et qu'on a beaucoup aimé voir en live. C'est vrai qu'on se nourrit beaucoup en fait des festivals et des concerts qu'on va faire, et c'est là aussi qu'on construit une partie de notre collection en achetant dans ce genre de cadre, quoi.
Et est-ce que vous avez une formation musicale ou vous êtes totalement autodidacte?
Alors moi, j'ai quand même été j'ai fait du piano depuis que j'ai 5 ans, je crois que j'ai fait j'ai eu des cours, j'ai failli faire le conservatoire, mais ça correspondait pas du tout à la manière dont on appréhendait la musique, en tout cas c'était pas ma conception de la musique. J'avais pas envie d'avoir quelque chose d'académique. Et c'est vrai que écoutant beaucoup de jazz à la maison, il y avait un fossé entre l'enseignement qu'on pouvait recevoir on va dire dans les cours de musique classique institutionnelle, et à l'époque il y avait encore très peu, moi je suis originaire de Bordeaux, donc il y avait très peu de possibilités en dehors du cursus classique en fait musical. Que à l'adolescence j'ai eu la chance de pouvoir trouver un cours de piano jazz. Donc et après j'ai beaucoup pratiqué seul. Et là, ça fait quelques années que je bidouille un peu la musique un peu électronique. Je me suis acheté quelques synthés, Et pour l'instant, c'est vraiment à l'étape d'expérimentation, on va dire.
D'accord. Mais c'est un projet dans le futur, de passer à la production.
Ouais, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Ayant aussi un métier à côté, c'est toujours dur de trouver le temps à la fois parce que notre activité de DJ nous prend quand même pas mal de temps parce qu'on a quand même des sets assez récurrents. Donc on digue pas mal, on recherche beaucoup de nouveaux sons. Donc c'est vrai que il faut trouver un équilibre entre la vie professionnelle, une passion semi-professionnelle. C'est chargé. On a des semaines assez denses.
Et moi de mon côté, j'ai fait le conservatoire. pendant, j'ai envie de dire 5 ans comme ça, mais ça commence un peu à dater. J'ai fait de l'alto, mais j'ai arrêté en cours d'adolescence. Mais bon, ça donne quand même des bases.
Oui, vous avez quand même une connaissance du solfège et des temps, ce qui est quand même pas si mal quand on aborde la musique.
Ouais.
Oui. Ça devient assez. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, surtout quand c'est des choses qu'on a appris à l'enfance. Je pense que ça devient très naturel. Et résultat, des fois, je pense que j'ai du mal à me rendre compte que de la chance que ça a été d'avoir cette éducation musicale.
Oui, ça forme l'oreille quand même. C'est important.
Oui, oui, bah surtout, c'est sûr que malgré voilà, quand on a commencé où on faisait des sets qui étaient très variés, vraiment, bon, bah c'est quand même assez compliqué quand on fait des sets minimal wave, post-punk, d'avoir une, on va dire que c'est plus de la c'était plus de la playlist et de la sélection, c'est plus de la selecta quand on fait des sets qu'un vrai set au sens où on l'entend avec des transitions en travaillant les sons, etc. Mais c'est vrai que ça a été quand même voilà, quelque chose de très utile, notre connaissance à tous les deux de la musique, parce que ça nous a très rapidement poussé à aller un peu au-delà de la selecta musicale, mais essayer de proposer toujours quelque chose de cohérent dans le son, d'avoir une progression dans l'univers musical et d'amener les gens voilà, d'un style à l'autre, tout en étant quand même voilà, tout en essayant d'avoir quelque chose de cohérent dans les sets.
Justement, je disais ça parce que j'ai écouté quelques sets et je trouvais qu'il y avait quand même une petite musicalité dedans qu'on ne trouve pas forcément. Vous faites quand même attention à un certain nombre de choses qui font plutôt plaisir à l'oreille.
Ouais, mais c'est vrai que c'est important. Moi, je sais que une des choses qui m'a donné envie aussi de passer du son, c'était voilà, de me retrouver. Bon, j'adore sortir et j'aime beaucoup aussi aller écouter des artistes, que ça soit en live ou des DJ sets. On est souvent voilà, on va souvent en soirée, on recherche pas mal les différentes expériences des concerts, et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir envie de passer du son pour les gens, c'est aussi parce que il y avait eu des DJ qui m'avaient procuré ce plaisir-là en allant à des soirées, d'avoir ouais, des sets très intéressants, très très progressifs, où il y avait vraiment une sélection exigeante. Et je sais que voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a donné envie de passer du son pour les gens, c'est de procurer, de ressentir, en fait, de procurer aux gens le même plaisir que celui que j'ai pu ressentir à certains moments donnés quand j'allais écouter des gens mixer.
Et autrement, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers ce style musical? Parce que moi, ce qui me fascine, c'est que les nouvelles générations sont fascinées par ce qui a pu être créé dans les années 80. Et qu'on pensait perdu à jamais. J'ai eu la surprise de voir toute une génération qui embrasse la musique que j'ai vue naître. Hein. J'ai vu arriver dans mes premières émissions de radio au début des années 80 toute la musique synthwave, c'est-à-dire qu'on se mettait à danser sur de la musique synthétique, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, elle était plutôt planante. Et l'EBM qui a été un feu follet dans les années 80 et que je trouvais dommage qu'on n'ait pas développé davantage. Et donc ça m'interpelle un petit peu de savoir quelles ont été vos motivations, le déclic pour aller vers cet univers synthétique noir des années 80.
Ah, c'est... je sais pas, c'est difficile. Moi, ça m'a toujours... Enfin, je crois que ça m'a toujours fascinée. Que résultat, dès que j'ai eu l'occasion d'aller en concert, d'aller en soirée, je l'ai prise et ça a été assez naturel. Et en fait, vu que je n'ai pas vraiment eu. J'ai pas vraiment connu en fait d'autres sous-cultures. Enfin, on va dire que je suis rentrée directement par là, donc c'est un peu. Je sais pas, pour moi c'était évident quoi. Je me suis jamais posé la question, je savais que c'était ça qui me plaisait et résultat ça s'est fait, j'ai envie de dire, ça s'est fait un peu tout seul quoi, parce que moi j'ai vraiment un souvenir, c'est que j'écoutais pas vraiment de musique avant en fait de commencer à sortir dans ces concerts, dans ces soirées. Quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais pas vraiment de musique, j'aimais pas beaucoup de choses en musique, mais parce que je pense que je n'avais pas trouvé ce qui me plaisait. Et c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement et j'ai jamais vraiment arrêté. Même si c'est vrai que je sors un petit peu moins, je sens moins que Clément, je suis un petit peu plus introvertie. Mais je sais pas, c'était une attraction vraiment naturelle et que résultat, j'aurais peut-être un peu de mal à expliquer.
Ouais, moi je pense que c'est aussi, je pense qu'il y a eu des passerelles en fait qui sont faites un peu voilà, naturellement entre ayant vécu les années 80, je sais que voilà, moi un de mes musiciens assez phare, d'ailleurs c'est le premier concert auquel j'ai assisté de toute ma vie, c'était Miles Davis, que j'ai eu la chance de voir gamin fin des années 80 début des années 90 juste avant qu'il meure. Et il y avait beaucoup de passerelles en fait entre la musique qu'il faisait justement, qui était très on va dire funk pop dans les années 80, où il avait quand même repris pas mal de les tubes de Cyndi Lauper, de Michael Jackson, où il utilisait aussi énormément de synthétiseurs dans ces années-là. Je pense que à l'oreille, plus le fait d'avoir écouté quand j'étais enfant, ce que je disais, Dead or Alive, avoir entendu Depeche Mode, avoir eu cette musique-là qui était au top 50 dans le fond sonore. Je pense que l'air de rien, à un moment donné, ça a créé en fait quelque chose qui existait, qui était là et qui était sous-jacent. Et c'est vrai que par exemple quand j'ai commencé à aller dans les soirées et à sortir, le premier style musical qui m'a vraiment parlé, c'était le BM. Je me souviens que d'avoir entendu Night the Reb et Front de 4-2 en soirée et de m'être dit waouh. Les sons, les samples, les rythmes, il y avait quelque chose qui était à la fois extrêmement dansant et en même temps une recherche du son qui était quand même très poussé quand on pense à Front de 4-2, toutes les recherches autour des sonorités, des samples, c'est quelque chose qui je pense m'a directement interpellé et qui m'a plu énormément dès que j'ai commencé à pouvoir sortir.
Moi j'ai un souvenir d'entendre pour la première fois, alors que j'étais en voiture, le morceau Push de The Invisible Spirit, et ça a été, mais j'avais 16 ans je pense, et ça a été une illumination. Ça m'a vraiment j'étais là, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est génial, enfin. Et ça m'a vraiment d'ailleurs je pense que si je m'en souviens aussi bien, c'est parce que oui, ça a été vraiment un moment où ça m'a ouvert une porte dont je savais pas qu'elle existait quoi.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom Law and Action?
Alors en fait c'est une contraction des pseudos qu'on avait respectivement
avant de se rencontrer.
Moi Action parce que dans mon passer, bon, passer ou pas passer, mais je viens du milieu de la performance aussi, du body art. Donc en fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé aussi à m'intégrer dans le milieu underground, c'est par la performance, le body art. Donc en fait, j'avais pris ce suffixe action en référence aux actionnistes viennois des années 70. J'avais pris ça dans mon pseudonyme de performeur. Et du coup, Gabriel, c'était.
Bah moi, j'avais un pseudo qui ne vient de rien, mais qui était, qui est le pseudo que j'utilise encore maintenant, Love Menstrual, qui était vraiment moi juste à la base un suffixe de la culture du pseudo sur Internet. Et en fait, voilà, les résultats, on s'est rencontrés, il fallait qu'on se trouve un nom, on était un peu qu'est-ce qu'on va faire, et résultat, on a un peu, voilà, on a découpé, on a pris un bout de chacun, on a mis et entre les deux, et hop, roulé jeunesse. C'était voilà, il y a pas une grande histoire derrière, mais c'est vrai que maintenant, vu que ça fait quand même longtemps, enfin ça fait longtemps qu'on le porte, ce pseudo, donc ouais. on l'aime bien.
En tout cas, il est parlant, c'est bien.
Oui, bah c'est vrai que aussi, de manière assez fortuite, on va dire, il y a un sens, même si on va dire c'est plus dans l'image et dans la référence que ça a par rapport, il y a beaucoup cette image un peu stricte dans la culture industrielle et dans la culture EBM. Donc c'est vrai que et dans les musiques froides, on va dire de manière plus globale. Donc c'est vrai que ça sonnait bien aussi dans l'oreille. Dans ce qu'on voulait renvoyer aussi comme image, d'avoir quelque chose qui était assez strict, et en même temps c'est assez rigolo parce que vu que des fois on peut aller jusqu'à passer de l'italo, moi j'ai une grande passion pour l'italo disco. Ça me fait rire aussi qu'il y ait un espèce de décalage entre quelque chose qui peut paraître assez froid et en même temps passer la plus cheesy des italo disco dans un de nos sets.
Oui, c'est les années 80 où il y avait une opposition entre une musique extrêmement froide, industrielle, et une musique beaucoup plus chaleureuse et dansante. Hein. C'était ouais. Typiquement l'empreinte des années 80.
Mais moi, ça me semble indispensable. Enfin, de toute façon, pour moi, dans ce qu'on fait, c'est indispensable d'avoir quand même Enfin, il faut qu'il y ait du fun, et même quand on va être dans des soirées où on va passer des choses très dures, très sombres, pour moi, si on s'amuse pas, s'il n'y a pas quand même un peu une capacité, enfin voilà, avoir un peu de recul sur soi-même, un peu de second degré, et quand même passer un bon moment et d'être dans un moment joyeux, même en écoutant des choses très dures, pour moi, c'est vraiment très important de réussir à garder cette opposition et pas non plus toujours se prendre trop au sérieux, quoi.
Et donc j'imagine que c'est ton expérience dans le body art qui vous pousse à jouer dans des soirées où justement il y a souvent beaucoup de performances.
Alors c'est vrai que ça a été aussi le fait que à un moment donné nos amis qui ont fondé le collectif Forensics, Lenny et Alex, en fait se sont adressés à nous donc pour devenir résidents des soirées, donc dans un premier temps Tech Noir et ensuite Forensics, et qui plus est qu'ils avaient cette envie justement dans les soirées Forensics d'avoir une proposition de performance. Donc forcément c'est évident que ça fait partie du même univers, même si autant dans tout ce qui va être art performatif, il y a toujours eu quand même une imbrication musicale entre le le son, forcément, si on remonte à Robin Grissel, ils ont commencé par la performance avant de développer le son et de vraiment continuer avec cette approche sonore. J'ai toujours été frustré dans les soirées parce que j'ai toujours trouvé que la programmation musicale des soirées où se produisaient des performeurs, que ça soit dans le milieu fétiche, dans le milieu SM, j'ai toujours trouvé que la proposition musicale était assez pauvre, et que ça manquait, en tout cas en France, on va dire. J'ai toujours trouvé que ça manquait un peu de consistance et de. Donc là, c'est vrai que la proposition avec Forensics d'avoir à la fois une programmation musicale assez exigeante au niveau des artistes, cohérente avec l'univers aussi de la performance, c'est quelque chose qui est forcément que je trouve vachement bien. C'est pour moi, c'était une proposition qui manquait en tout cas à Paris, quoi.
Oui, qui manquait, alors qu'en plus elle est assez moi je la trouve assez évidente et et à Londres ou à Berlin, c'était des propositions qui existaient déjà, qui sont bien en place et qui sont faites beaucoup plus naturellement qu'à Paris, j'ai l'impression.
Oui, disons qu'il y a eu un trou à Paris dans les années 90, parce que dans les années 80, il y avait cet aspect de performance avec pas mal d'artistes, mais les années 90, c'était passé à autre chose. La performance était dans le public, à la limite.
Oui. Bah oui, après c'est vrai que c'est un peu le public qui fait aussi la performance de la soirée et le public est très important de manière globale dans les soirées, hein. Une soirée avec un public équilibré où il y a quelque chose de, où il y a une alchimie qui se crée, c'est forcément une soirée qui est géniale, quoi.
Et quels sont vos projets dans le futur ? Est-ce que vous avez envie de développer ?
Comme je disais, moi c'est vrai que je travaille un petit peu sur le son, donc c'est plus de l'expérimentation. Et c'est vrai que ça c'est un peu ce à quoi j'aimerais consacrer du temps, dans les temps qui viennent. Et après, c'est vrai que tous les deux, on a la chance aussi d'avoir des métiers qui restent quand même liés au domaine créatif. Donc c'est aussi des métiers qui nous prennent, sur lesquels on développe des projets qui sont parallèles, qui font pas partie du même univers, mais dans lesquels on s'épanouit aussi pas mal, donc c'est, ça prend pas mal de temps.
Oui, c'est vrai qu'à une époque on jouait peut-être plus, mais c'est vrai, oui, que maintenant on a tous les deux pris des métiers qui nous prennent pas mal de temps, et c'est vrai que moi maintenant je prends, j'ai envie de dire peut-être jouer moins, mais pour jouer mieux. Enfin, choisir un peu plus les endroits où on joue. Et par contre, y aller vraiment avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous de trouver l'équilibre entre gérer le quotidien et nos activités musicales à côté, et que c'est pas forcément toujours évident.
Très bien, écoutez, on en sait un petit peu plus sur Law and Action. Peut-être maintenant nous allons vous écouter. Alors merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Et on va tout de suite écouter Law and Action dans Rev Up sur Maximum.
About urination and defecation and mutilation of the genitalia. We're talking about bestiality, where highly explicit photographs are taken of women having sex with animals. We're talking about things that would make the average citizen ill.
Pornography is just as damaging as cocaine or crack or any of that stuff.
et toute la nuit, c'est Rave Up, Rave Up sur Maximum.